François Bernard.
C'est pas du vent. Deuxième partie, nous retrouvons dans 20 minutes la chronique environnement et technologie de Dominique Dezonnet. Mais avant cela, je voudrais vous présenter une série de reportages que nous découvrirons pendant ce mois d'août. 8 reportages réalisés en Afrique de l'Ouest par Agnès Rougier, une série qui se déroule dans les réserves de biosphère de l'UNESCO. Ces réserves ont pour objectif de construire une relation durable entre l'environnement et les populations. Une initiative qui est un petit peu à contresens des pratiques en vigueur jusqu'aux années 80 et qui excluait totalement les populations des zones protégées. Pour cette première, on va se rendre dans une réserve de la boucle de Baoulé. C'est au Mali, dans une réserve de 2 millions d'hectares dont la gestion est assez problématique. Le service des eaux et forêts manque de moyens, ce qui rend la surveillance très difficile. Et une partie de la population, en particulier des anciens qui ont vu disparaître les animaux sauvages, a décidé de travailler avec les gardiens de la réserve.
Réserve de biosphère en Afrique de l'Ouest, l'environnement au quotidien.
Préserver la nature et l'avenir à la boucle du Baoulé au Mali.
Reportage Agnès Rougier. Réalisation Alain Bleu.
La réserve de biosphère de la boucle du Baoulé est située à l'ouest du Mali, non loin des frontières de la Guinée et de la Mauritanie. Cet espace de 2 500 000 hectares a été classé par l'UNESCO en 1982. Tout autour de l'aire centrale, la zone de transition, qui mesure 1 800 000 hectares, englobe quelques 300 villages et hameaux et plus de 300 000 habitants. Pour gérer cette superficie imposante, le personnel de la réserve a enfin augmenté cette année. Il est passé de 40 à 123 personnes, gardes forestiers inclus. Au premier coup d'œil, on constate que la nature est abîmée. Aucun animal sauvage n'est visible à l'horizon. Les arbres, dans le cœur même de la réserve, sont déchiquetés par les troupeaux. Et le feu a visiblement traversé la forêt en saison sèche, ce qui n'aurait pas dû arriver. Mais même si le résultat n'est pas visible immédiatement, le travail de sensibilisation se fait et l'alliance qu'ont réussi à monter les gardes forestiers avec au moins une partie de la population semble porter ses fruits. Aujourd'hui, nous allons rencontrer des villageois de Bambara, en plein cœur de la réserve, et notre guide est Bourama Niagaté, le directeur de la réserve de biosphère.
Le fait même de créer cette réserve, l'objectif c'était de permettre à la population justement d'être intégré et dans tout le processus de développement de la zone et de mettre en place des zones de passage pour les transhumants, d'établir des zones pastorales. Je suis justement la redéfinition des limites en 1994. Et c'était justement dans le cadre de la gestion améliorée de la diversité biologique de la boucle du Baoulé. Donc si nous partons dans ce contexte, c'est dire aujourd'hui, avec les pressions qui sont sur la zone, on constate en certains endroits qu'il y a une forte diminution des ressources dans ce milieu. Et vous êtes là, vous avez vu dans certaines zones, au niveau de la zone de transition, tout comme au niveau de la zone tampon, on a vu des défrichements d'une dimension considérable et inacceptable pour quelqu'un qui est de ce domaine de gestion de la faune et de la flore. Nous avons vu également des feux qui passent et nous avons vu également des mutilations qui sont faites par les transhumants. Tout ça, ça contribue justement à la réduction de la biodiversité, mais la biodiversité existe encore.
On est à Bambara avec Matene Diara et Namaké Diara, deux habitants de Bambara et deux personnes qui se sont impliquées dans l'environnement aux alentours de ce gros village qui est juste au bord de la boucle du Baoulé. Ça fait longtemps que la réserve a été classée réserve de biosphère. Vous avez travaillé au départ. Quelle a été votre action par rapport à la réserve? Par rapport au village, vous avez fait quoi? Namaké Diara.
Il
dit qu'ils l'ont pensé en premier lieu
de s'impliquer dans la protection de la réserve de Baoulé.
Pourquoi?
Henri Benfamina. Baoulé Makana. Oui, à Fanny Chumina Kanara.
Il dit qu'il a eu cette idée et ils savent que s'il s'impliquait beaucoup dans la préservation de la nature, cela pourrait engendrer dans le futur beaucoup d'animaux sauvages et que ces animaux sauvages entraîneraient beaucoup de touristes vers ici. Et les touristes là amèneront beaucoup d'intérêt, beaucoup d'argent et ils peuvent bénéficier de ça.
Vous parlez d'animaux sauvages, c'est-à-dire quand vous étiez jeune, même petit garçon, est-ce qu'il y avait des animaux sauvages à ce moment-là? À quoi ça ressemblait autour?
Il dit qu'à
leur âge, jeune âge, il y avait beaucoup d'animaux sauvages ici. Il ne s'agissait même pas de faire des distances pour les voir. Quelque part seulement, on pouvait les voir. Je crois qu'on va écouter sa réponse aussi.
Et vous, Matiné Diara?
Et avec les Mouyokan.
Quels animaux?
Tungatien, il faut garder Matiné. Tungatien. Sugo, Mifmer. Samaf Mer. Nirumat Mer. Sigit Mer.
Il y avait l'éléphant. Il y avait le bifle. Damalis, girafe. Beaucoup d'animaux. Mais les lins de derby et les coffres de bifon, les coffres de bifle, pas ça. La raison qui fait qu'il n'y a pas assez d'animaux, c'est le manque d'eau.
Depuis quand vous avez vu que ça changeait?
84.
Depuis 84, précisément, vous avez daté. Et alors, il y a moins d'animaux, mais il y a aussi le paysage est moins vert, il y a moins d'arbres, il y a.
Au bas là. Au bas là. Il doit aller dans ma gueule, encore faire des abonnés.
Il dit qu'effectivement, le manque d'eau a causé aussi la perte de la flore. Il y avait beaucoup d'arbres ici, mais avec le manque d'eau, c'est vraiment la flore a beaucoup dominé. On pouvait voir tout juste à côté beaucoup d'arbres. On ne pouvait même pas voir l'horizon à cause des touffes.
Namaké Diara,
Diara, 84. Il commence la diala. Encore la doko il diala. 84. Et puis ce qu'on doit aller à l'époque. 84.
Il dit qu'effectivement, le manque d'eau a commencé en 84 et qu'on pouvait même rencontrer dans les promenades des cadavres d'animaux par-ci, par-là.
Comment ça vous est venu à l'idée qu'il fallait effectivement faire quelque chose, préserver l'environnement? Ça pourrait peut-être ramener l'humidité qui manque. Matiné Diara.
Après, il y a le connu, au TNDB.
Il dit que la compréhension leur est venue par l'aide de l'opération Parc National de la Boucle de Baoulé au PNBV. Et depuis qu'ils ont eu à échanger beaucoup avec ces services, ils ont eux-mêmes compris que s'ils ne s'impliquent pas, il y aura trop de problèmes, trop de dégradations et ça va causer des problèmes à l'avenir.
Ce sont quand même des populations qui ont vu disparaître les éléphants, les lions du derby. Il y a quand même un certain nombre d'animaux qui ont disparu. Brahmani Gaté.
L'éléphant a existé dans la zone du Baoulé. Le lion du derby a existé. Le buffle a existé. Les chimpanzés faisaient la navette entre la zone du Bafing et une partie du Baoulé. Il y avait un couloir de migration qui permettait à ces ressources-là de venir. Aujourd'hui, leur passage se trouve totalement obstrué par la présence humaine. L'élan de derby, c'est une espèce farouche qui n'aime pas être dans certains habitats où il y a toujours des dérangements. Et l'espèce a disparu, non pas seulement à cause de la présence humaine, mais surtout la dégradation même de l'habitat et le braconnage intense. Et c'est la même chose pour l'éléphant. D'ailleurs, on a un village qui se trouve au niveau de la réserve qui a même porté le nom des éléphants. C'était un site où on rencontrait les éléphants et le site s'appelle Samakoulou. Sama, ça veut dire éléphant. Koulou, ça veut dire la colline des éléphants. Et c'est dans ce site où on rencontrait le plus grand nombre de peuplements d'éléphants. Et ces éléphants faisaient la migration entre la zone qu'on appelle Alata en Mauritanie et qui descendait au Mali, qui continuait vers la Guinée. Maintenant, c'est coupé carrément, il n'y a plus d'éléphants en Mauritanie. Cette partie du Baoulé qui pouvait conserver les éléphants n'en possède plus et la ligne qui continuait sur la Guinée est obstruée. Mais il y a d'autres espèces qui sont, en tout cas ici, qui sont bien représentées. Parmi les grands mammifères, nous avons les bibales, nous avons l'hippotrague, nous avons également les hippopotames qui sont dans le fleuve Baoulé. Et bon, les grands carnivores, c'est toujours les lions qui dominent.
On est devant quoi la Bourama Niagaté? Ça fait un gros trou. C'est comme si la Terre s'était effondrée.
Justement, ça, c'est l'effet de l'érosion éolienne ici. Et comme vous voyez le degré de l'érosion au niveau de la réserve ici, c'est dû au fait qu'il y a un grand déboisement en amont. C'est ce qui fait que chaque fois qu'il pleut, les eaux sont drainées avec une certaine vitesse. Il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Donc quand ça arrive, il y avait d'abord un petit trou. C'est ce qui a fait que maintenant c'est plus ou moins grand. Ça fait une sorte de marmite géante à l'intérieur. Et l'eau qui n'arrive pas à reculer et aller dans un sens, donc avec cette vitesse, c'est ce qui crée ça. Et vous voyez les racines des arbres qui sont partout, suspendues. Vraiment, c'est un phénomène très très dangereux au niveau de la réserve aujourd'hui.
Voilà, c'est un trou qui fait quoi, 5 ou 6 mètres de profondeur. Il y en a, et c'est pas le seul, hein, je vois qu'il y en a d'autres derrière.
Bon, c'est cette partie que vous voyez qui fait une profondeur à peu près de 5 à 6 mètres, mais il y a des endroits qui sont plus profonds que ça, et on peut continuer pour aller dans l'autre sens.
Oh là, oh, c'est impressionnant. C'est carrément un canyon, là.
Ouais. Bon, et comme tu le vois toi-même ici, on a l'impression que c'est des buildings qui sont construits, enfouis dans le sol. Tout ça, ça, c'est dû à l'effet de l'eau. Et l'eau qui passe avec une vitesse qui ronge le sol. Et vous avez même des traces d'animaux qui sont là-dedans. Vous voyez là-bas, de l'autre côté, ça, c'est certainement les traces d'un oryctérope. Hein, qui a passé pour essayer de manger la terre, certainement que c'est salé. Et c'est une sorte de saline ici. Hein? Et vous voyez les arbres qui sont là-dedans. Si ces arbres-là étaient au dehors, c'est des grands arbres. Mais nous qui sommes en altitude ici et qu'on voit en profondeur, c'est des grands arbres qui sont à l'intérieur. Et c'est pour vous dire que tout le long du Baoulé, c'est le même phénomène qui se produit. Et cette partie longe carrément la réserve jusqu'au niveau du fleuve. Et vous voyez déjà la végétation, comment elle se présente. Et on voit que la cime des arbres, nous sommes en altitude ici, et de l'autre côté, c'est dans le bas-fond.
Oui.
Pourtant, c'est des grands arbres qui dépassent 10, 15 mètres.
Ça date de quand, ces trous géants dus à l'érosion?
C'est depuis les années 72 où les phénomènes de sécheresse avaient commencé dans les pays du Sahel. Après les aléas climatiques, il y a aussi l'impact de l'homme lui-même qui a contribué justement à l'aggravation de cette situation. Je parlais tantôt des phénomènes de déboisement. Il y a également le passage fréquent des feux. S'il n'y avait pas, en tout cas, ce déboisement, ce qui est sûr, les arbres qui étaient là comme système de freinage de la vitesse de l'eau allaient faire en sorte qu'on n'allait pas voir ce phénomène. Et chaque année, il y a un éboulement total de ce creux. Et la terre qui tombe est drainée justement vers le fleuve avec tout ce qu'il y a comme sédiments, et puis ça continue jusqu'au niveau du fleuve Sénégal, et puis c'est drainé dans la mer.
Ouais.
Tous les ans, c'est le même phénomène qui se produit, et il n'y a pas d'autre solution que d'interdire certaines pratiques autour de ça. Nous, ce qu'on peut faire, c'est d'arrêter la progression des activités en question. Plus de feu, plus de déboisement, plus de champs autour, ça va faire en sorte que lorsqu'il y aura une reprise, et le sol va être bien soudé à travers les racines, à travers disons les graminées qui sont là. Et ça va faire en sorte que vraiment il n'y aura plus ce phénomène-là. Ça va s'arrêter.
vous avez fait alors avec l'OPNBB, l'OPNBB c'est donc l'Office de protection de la nature, la direction des réserves de biosphère. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux? Vous êtes rencontrés, vous avez participé à des formations, comment ça s'est passé?
Ils ont fait des formations, ils les ont amenés jusqu'à Misra suivre des formations. Ils ont travaillé avec et pour les pistes, les 37. Lui, il était dans ces formations et puis Namaké Diara aussi dedans, était dedans. Il dit qu'il y a eu beaucoup d'efforts, mais il faut continuer. Il reste d'autres choses à faire.
Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ces formations? À quoi ça ressemblait? De quoi on vous parlait?
Ça, c'est le cordon pierreux pour la lutte anti-érosion.
Ah, ça, c'est donc le cordon pierreux, c'est ça? Oui, pour la lutte contre l'érosion. Mm-hmm. Ce que vous pratiquez, ça maintenant. D'accord.
Le cordon pierreux, c'est une technique pour lutter contre l'érosion. Le cordon est pierreux.
Oui.
Il dit que c'est cette technique qu'on les a montrée.
Et que vous utilisez maintenant?
Ils les font ici.
Et ça marche?
C'est très bon et ils ont beaucoup d'intérêt dedans.
Depuis que vous avez fait ces formations, est-ce que vous avez vu un résultat concret du travail que vous avez fait ensemble sur l'environnement? Namaké Diara?
Bon, je vais faire une formation. Je vais faire une formation.
Il dit que ça a beaucoup apporté. D'abord, Namaké, il dit que ça donne beaucoup d'intérêt. En premier lieu, ils ont eu à travailler dans l'ouverture des pistes. Et dans ce cadre-là, ils trouvent les moyens souvent d'amener des touristes pour voir les animaux avec la remontée biologique. Donc ça, c'est très important. Et de l'autre côté, le premier côté que lui souligne, ça c'est l'implantation même des services des eaux et forêts ici. Le fait que ce service est là a été une force dissuasive pour ceux qui se donnent à la destruction de la forêt. Ça c'est un premier élément, puisqu'il dit qu'il y avait des résistances pour ça. Le deuxième côté, ça a apporté le fourrage ici. Les fourrages pour l'eau, dans les temps, ils descendaient dans les marigots pour prendre de l'eau. Et lorsque même les premiers véhicules qui est venu creuser les fourrages ici a apparu, ça a été une grande fête. Et vous voyez, on a de l'eau potable à cause de ça. Ça aussi, c'est un grand intérêt de la mobilisation, la sensibilisation concernant la préservation de la réserve.
Oui, il y a maintenant de l'eau potable à Bambara, mais il n'y a ni école, ni dispensaire, et l'accès est difficile car les pistes sont loin d'être praticables par tous les temps. Et pour Makene Diara et Namaké Diara, qui représentent les villageois, seul le travail en commun pourra leur mettre la tête hors de l'eau. Merci à Aruna Dembélé, le représentant de l'UNESCO au Mali, qui a assuré la traduction.
Une émission de Radio France Internationale, produite en partenariat avec le réseau MAB UNESCO, la Commission canadienne de l'UNESCO et le Fonds français pour l'environnement mondial.
Voilà pour ce reportage d'Agnès Rougier dans une réserve de biosphère au Mali. Premier donc d'une série de 8 reportages que vous pourrez entendre les mardis et les jeudis dans C'est pas du vent. Des reportages qui sont diffusés également par un certain nombre de nos radios partenaires. Radio Tokpa par exemple, Radio Tokpa à Cotonou, dont nous saluons les auditeurs qui écoutent aussi RFI. Prochain rendez-vous, jeudi prochain donc, nous serons au Mali encore pour parler de la cohabitation entre animaux domestiques et faune sauvage au cœur des réserves.
c'est pas du vent @lfi.fr.
Écrivez-nous, on parlera de vos courriels à l'antenne. On termine, comme chaque jour de ce mois d'août, avec TerraTech, c'est la chronique de Dominique Dezonnet, qui évoque ce mardi le système GPS proposé aux agriculteurs pour leur permettre d'ajuster la trajectoire de leur tracteur dans les champs.
Bonjour et bienvenue dans TerraTech où nous découvrirons des GPS pour les agriculteurs. Pour rappel, les GPS sont des systèmes de positionnement par satellite qui permettent de se placer sur une carte numérique. Alors même si vous n'avez qu'un petit bout de gazon dans votre jardin, vous saurez tout sur l'empreinte écologique de l'agriculture. Ce sera avec Laurent Charpentier.
TerraTech Actu.
En bref. Et des nouvelles de la planète avec notre expert Jean-Paul Hébrard, initiateur du projet Tech for Food. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour à tous.
Des chèvres qui pèsent au siège du géant Google, vous nous expliquez ça Jean-Paul ?
Dominique, ce sont 200 chèvres qui ont été amenées à Mountain View en Californie pour désherber les alentours du siège de Google, cela afin d'éviter les problèmes d'incendie fréquents que l'on pouvait rencontrer dans la région. C'est dans une optique de développement durable que l'entreprise a préféré les animaux autondeuses à gazon qui libèrent, bien sûr vous le savez, du dioxyde de carbone dans l'air.
TerraTech, l'entretien.
Vous utilisez peut-être un GPS pour vous guider en voiture. Eh bien, sachez que les agriculteurs peuvent utiliser aussi ce système. Alors, pourquoi faire, Jean-Paul ?
C'est très simple. Les systèmes GPS proposés aux agriculteurs permettent d'ajuster la trajectoire du tracteur au champ. De cette manière, le tracteur ne repasse pas plusieurs fois au même endroit, ce qui réduit, vous le savez peut-être, le chevauchement des zones traitées par les substances chimiques, mais cela permet aussi de limiter le nombre de kilomètres qui sont parcourus.
L'utilité du GPS est le contrôle de l'empreinte écologique de l'agriculture, expliqué par Laurent Charpentier de chez Fendt, qui produit et commercialise des machines agricoles.
Ça existe sous deux formes. D'une part, ce qu'on appelle des aides au guidage, c'est-à-dire des systèmes qui font que le conducteur peut recevoir une information qui va lui permettre de corriger, d'ajuster sa trajectoire en fonction d'une barre virtuelle qui est sur un écran, en fait. On travaille là avec une précision d'environ 30 cm, ce qui n'est pas très très précis. À côté de ça, on a des systèmes plus sophistiqués qu'on appelle des autoguidages qui là permettent à l'engin de recevoir une information, un guidage proprement dit, et le conducteur ne va pas intervenir. C'est le GPS qui pilote lui-même, qui pilote une moissonneuse batteuse, qui pilote l'engin qui est utilisé dans le champ. Si on parle de GPS pur, c'est du pilotage. Effectivement. Après, le GPS peut être croisé avec différentes applications comme par exemple des cartographies de rendement qui là vont permettre de faire ce qu'on appelle de l'agriculture de précision. Je m'explique. Une parcelle agricole a des rendements qui sont variables pour différentes raisons, pour des raisons climatiques, des raisons de sol, etc. Ces rendements, ces disparités, on est capable de les connaître soit par reconnaissance visuelle avec un avion, un satellite, soit avec des capteurs qui sont installés sur un tracteur ou sur une moissonneuse batteuse. Si on superpose les deux, on va être capable en fait de savoir où on est dans le champ, quel est le rendement à cet endroit-là et donc de diffuser exactement la bonne dose de semences, d'engrais ou de produits phytosanitaires.
En quoi ça peut respecter l'environnement, cette maîtrise par la cartographie des champs à cultiver ?
En fait, on joue sur deux leviers. Le premier levier, c'est la quantité des produits qu'on va diffuser dans la nature. C'est-à-dire que par ces systèmes de guidage, par des systèmes qu'on appelle aussi de coupure de tronçons, etc., on va limiter la quantité de produits herbicides, fongicides, pesticides qui est diffusé dans la nature. Donc, tant mieux pour elle. C'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est la quantité de carburant consommé, en fait.
L'idéal, c'est de pouvoir diffuser cette technologie auprès des agriculteurs. Alors, comment vous y parvenez, vous, société ?
Donc en fait, nous, Fendt, on n'a pas vocation à commercialiser ce type d'équipement. En revanche, on commercialise des tracteurs qui sont compatibles avec des équipements. En l'occurrence, nous, on travaille avec ce qui est peut-être la forme la plus sophistiquée, c'est le système dit RTK, qui est un système de triangulation où on a le tracteur, enfin du moins l'engin, le satellite et des balises posées dans le champ pour réduire la précision à carrément 2 cm.
Si on revient à cette idée d'agriculture de précision, alors est-ce que c'est valable partout, y compris dans les pays du Sud ?
Tout à fait. Le GPS n'a pas de frontières. Maintenant, c'est déjà largement en place dans des pays, par exemple d'Afrique tropicale, sur des exploitations fruitières qui ont un certain volume, une certaine envergure, qui permettent d'amortir le système assez rapidement.
Vous l'aurez compris, TerraTech, c'est du tonnerre. Alors retrouvez toutes ces infos en ligne sur www.rfi.fr ou encore sur www.tvagri.info. Et si vous avez des questions et des suggestions, vous pouvez nous écrire à terratech@rfi.fr.
Merci Dominique Dezonnet. Demain, on parle de tout l'argent investi ces 10 dernières années pour rendre plus économes nos appareils électroménagers. Avant de nous quitter, cette bonne nouvelle, 10 adolescents ont participé la semaine dernière à une chasse aux déchets au fil d'une rivière de Moselle sur un voilier à bord de kayak. Ces jeunes gens ont ramassé près de 600 litres de barils de lessive, des ballons de football, des bâches en plastique sur une cinquantaine de kilomètres. Ça semble beaucoup, mais leur accompagnateur a eu ce commentaire encourageant. L'an dernier, j'ai fait le même parcours, seul, a-t-il dit. J'avais compté 70 à 80 déchets par kilomètre. Cette année, on se situe plutôt autour des 15-20 déchets. Il y a du progrès. C'est une bonne nouvelle. C'est celle du jour. Et on termine là-dessus. Merci à Sophie Janin, à Delphine de Dianous, à Arnaud Rosenstingel et à Alexis Levavasseur qui m'ont aidé à diffuser cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet RFI.fr. Demain, notre invité sera Geneviève Savigny. C'est la secrétaire nationale de la Confédération paysanne. Même heure, même planète, comme disent nos amis. Portez-vous bien et à demain.